Bonjour, bonjour, on est lundi, c'est le Front du Lundi en direct sur Canal Sud 92.2. Vous pouvez, comme à chaque fois, nous appeler au 05 61 53 36 95 et vous direz bonjour à Julien qui est à la technique. Bonjour Julien.
Bonjour.
Voilà, alors on est hyper nombreux dans le studio aujourd'hui, tellement nombreux qu'il n'y aura pas de temps pour tout le monde.
Voilà,
c'est le délire, tellement de monde qu'on n'a pas fait de file d'attente, il n'y a que moi qui vais parler. Et Julien, un petit peu, si j'arrive à lui extorquer le son de sa voix pour lire un superbe texte tout à l'heure, il est pas content. De quoi on cause aujourd'hui? On va largement parler et largement faire parler Annie Thébaumoni, un montage d'une heure qu'on retrouvera à partir de 13h. Annie Thébaumoni, sociologue de la santé, jusque-là rien que de très peu engageant, c'est pas forcément super sympa. Sociologue de la santé qui a sorti récemment un bouquin, La science asservie, en trois mots, asservie comme asservissement, la science aux ordres, celle qui nous fait avaler toutes les pilules, qui sert d'expert dans tous les tribunaux pour couvrir toutes les saloperies des industriels. Et bien elle, c'est une sociologue de la santé qui dénonce ça, connue pour son travail associatif sur les maladies professionnelles, notamment sur donc les cancers, l'amiante et autres joyeusetés. Pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui avait un petit peu fait parler d'elle en juillet 2012 lorsqu'elle avait refusé la Légion d'honneur que voulait lui coller Cécile Duflot. Elle l'avait refusé en disant que ça serait quand même plus sympathique de donner à la place de moyens pour la Légion d'honneur, des moyens pour pouvoir lutter contre les maladies professionnelles et pour ce qu'elle nomme un véritable droit de tuer des patrons sur leurs employés. Alors ça vous donne envie d'écouter, hein, ça sera à 13h tout à l'heure. En attendant le reste du sommaire, on va vous parler de Ziad Ebouna et on va relayer l'appel à rassemblement tout à l'heure à 19h. On vous parlera du formidable numéro de CQFD qui vient de sortir. On vous parlera d'un retour sur les opérations qu'il y a eu dans la bande de Gaza il y a quelques étés. On vous reparlera de Pinar Selek qui nous fait le plaisir de venir à Toulouse ce mercredi. Et barrages, toujours et encore les barrages, toujours aussi peu utiles. Voilà donc un grand sommaire. Mais tout ça sont quand des choses qui nous détruisent. Voilà, la police, le racisme, les projets industriels, le cancer, détruire ce qui nous détruit, c'est le Front du Lundi. On rentre dans la tranchée parce qu'il y a Negative Approach qui arrive. We won't take any shit. Voilà, c'était Negative Approach, Ready to Fight. Qui êtes-vous pour nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Vous n'acceptez pas ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Eh bien, s'il le faut, nous sommes prêts à nous battre. Tout un programme. Et on revient à Toulouse avec un appel à manifester devant le palais de justice ce soir à 19h. Il y a un texte, donc c'est un appel national. Il y aura évidemment un rassemblement à Clichy, à Paris et dans pas mal de villes de province, comme on dit. Le texte, le voici. Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, une dizaine d'adolescents qui sortent du foot sont interpellés par la police et prennent la fuite par peur d'un contrôle. Pris en charge par plusieurs voitures de la BAC, Ziad, Bouna et Muhittine se réfugient dans un transformateur EDF. 20 minutes plus tard, Ziad et Bouna meurent électrocutés. Muhittine, gravement brûlé, parvient à prévenir les secours. Le 18 mai prochain, donc c'est aujourd'hui, la cour d'appel rendra publique sa décision au sujet des deux policiers mis en examen dans cette affaire. Inculpé, au départ, pour mise en danger délibérée, la justice ne retient plus aujourd'hui que la non-assistance à personne en danger pour les deux seuls policiers mis en cause. Après 10 ans de bataille judiciaire et une relaxe confirmée une première fois en appel, quel que soit le verdict, il ne sera jamais pleinement satisfaisant. Dans de trop nombreux cas, les policiers mis en cause bénéficient d'une impunité judiciaire et sont traités comme des citoyens au-dessus des lois. insultes, contrôle d'identité abusif, brimades, mutilations, autant de pratiques qui constituent une violence quotidienne. Ali Ziri, Abou Bakari Tiandia, Mohamed Boukrourou, Lamine Diang, nous ne parlons pas ici d'incidents ou de bavures, mais d'une violence d'État dont la justice se fait complice. Faut-il s'étonner des révoltes dans les quartiers populaires? Le 18 mai, nous ne nous tairons pas, ces combats ne s'arrêtent pas aux portes des palais de justice. Dans la rue, la lutte se construit et la solidarité s'organise. Voilà, donc faut-il le rappeler, c'était suite à la mort de Ziad Ebouna qui avait eu des révoltes pendant plusieurs semaines dans une espèce de belle solidarité de tous les quartiers, à peu près presque toutes les zones dites sensibles de France. Il y avait à l'époque beaucoup de gens pour dire qu'il fallait faire confiance dans la justice et son pays, laisser l'enquête suivre son cours. Ben voilà, on peut un peu faire le point de ça. Il n'y a pas grand chose, il y a peut-être deux policiers qui seront inculpés de non-assistance à personne en danger. Faut-il rappeler là encore qu'à l'époque, ils s'étaient même amusés dans leur talkie-walkie à dire qu'ils allaient certainement pas s'en sortir aussi bien, vu qu'ils étaient rentrés dans ce qui savait très bien être un transformateur EDF. Voilà, et ben malheureusement, ça sera probablement encore ce soir une belle démonstration du fait que faut peut-être pas trop avoir confiance dans la justice de son pays. C'est à 19h au Palais de Justice pour le Rassemblement Toulousain. Également, dans la série les bonnes nouvelles, ces petites choses qui nous tuent, mais de temps en temps ça fait du bien de voir un petit peu de solidarité ou des langues qui se délient. On va devoir pour ça quitter un petit peu cette belle ville rose et ce soleil estival qui pointe son nez pour repartir en Palestine. Souvenez-vous, on était à l'été 2014, l'opération Bordure Protectrice, qui était encore une réponse à sans doute une rafale ou un roquette qui était atterri dans le désert israélien. Il y avait une opération militaire massive en représailles. Et il y a une ONG qui s'appelle Briser le Silence, qui est une ONG israélienne, qui allait interroger 60 combattants pour leur demander un petit peu comment s'étaient passées ces opérations. Donc des gens qui font leur service militaire obligatoire, pas forcément des militaires professionnels.
On parle de combattants israéliens.
On parle de combattants israéliens. Question. Qu'étiez-vous censé faire lorsqu'il y avait quelqu'un à la fenêtre? Réponse. Tirer. Question. Que faisiez-vous quand vous aperceviez une personne au loin? Réponse. Un individu de moins de 1m40 ou une femme, on lui demandait de dégager. Si c'était un homme, on tirait. Question. Dans quelles autres circonstances ouvriez-vous le feu? Réponse. On se disait, tu es à Gaza, tu tires sur tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Protégés par l'anonymat, 60 combattants de Tsahal qui ont participé à l'opération contre Gaza Bordure Protectrice, l'été dernier, ont accepté de répondre aux questions de l'ONG israélienne Briser le Silence. Dans ce rapport de 238 pages intitulé « Comment nous avons combattu à Gaza », rendu public le 4 mai, ces soldats livrent 111 témoignages racontant leurs altitudes au feu, leur état d'esprit et celui de leur commandement. Vieillard blessé à terre achevé au bulldozer, femme abattue, son téléphone portable à la main, salve de char sur une maison, en hommage à un copain tombé, fermez les guillemets, porte systématiquement ouverte à la grenade. Sur quoi je tire? Demandait l'homme du rang. Choisis comme tu le sens, répondait l'officier. Les règles d'engagement étaient ouvrez le feu partout. Du 8 juillet au 26 août 2014, 72 soldats et 6 civils israéliens sont morts, dont un enfant. De l'autre côté, quelques 500 combattants et 1660 civils palestiniens, dont plus de 500 enfants, sont tombés. Ceux qui aujourd'hui témoignent sont capitaines, lieutenants, sergents, simples soldats. Ils servaient dans l'artillerie, les blindés, l'infanterie. Aucun d'entre eux ne qualifie ces actes. Les mots « crimes de guerre » ne sont jamais employés. Ce terrible rapport donne la parole à des hommes désorientés face à la sale guerre qui leur a été faite comme à la sale guerre qu'ils ont menée. Et on pense au magnifique documentaire, oui bon là ça part un petit peu. Nous sommes devenus cruels envers nous-mêmes, avoué l'un d'eux, mais surtout envers les populations que nous contrôlons sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Voilà, ça c'était la minute un peu joyeuse hein, du front du lundi. Dans des choses peut-être un petit peu plus sympathiques, vous pourrez retrouver ce mercredi à 18h Pinard Selleck, faut-il encore une fois la présenter, Pinard Selleck dont on avait diffusé une interview ici même, cette sociologue turque qui a été condamnée à prison à vie, puis à rien du tout, puis à prison à vie, puis rien du tout, puis une nouvelle fois à prison à vie. Aux dernières nouvelles, elle se porte bien et elle vient nous rendre visite dans la Ville Rose mercredi à 18h à la librairie Ombre Blanche pour parler de son dernier ouvrage qui s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens ». Ben dans ce bouquin, en fait, elle raconte comment est-ce que, quand on est turc, on apprend assez jeune que ben, les Arméniens sont les gens à ne pas fréquenter, une forme d'incorporation du racisme ordinaire en Turquie. On pourrait faire sans doute un bouquin un peu similaire en France, mais il n'est pas fait. Donc si vous voulez prendre des idées, peut-être aller rencontrer quelqu'un qui allait au bout de la démarche, allez voir et écouter Pinar Selek mercredi à 18h. Voilà, c'est sympa les émissions tout seul. Julien, je vais te mettre à contribution.
Mais tu devais pas nous parler de CQFD à un moment donné ?
On devait parler de CQFD. C'est sympa de me dire, tu m'accules dans les cordes là. CQFD, mais oui, effectivement, il était question de parler de CQFD parce que CQFD vient de sortir son nouveau numéro. Mai 2015, alors un numéro un peu exceptionnel, alors un tout petit peu par son prix puisque c'est un peu plus cher que d'habitude, c'est 4€, mais surtout exceptionnel par son contenu.
Et par son visuel.
Son visuel déjà, en couverture, une combattante kurde avec en gros titre, spécial Kurdistan, Turquie, Syrie. Alors pour celles et ceux qui avaient déjà pu écouter nos deux invités qui étaient venus de retour d'une mission dans le Kurdistan, nous avait raconté pas mal de choses. Ben là, vous pouvez aller avec CQFD prolongé, trouver dans ce cahier central pas mal de photos. Donc il y a Mathieu qui a fait ce dossier-là, qui sera peut-être interviewé la semaine prochaine, si on en a le temps au Front du Lundi, pour raconter dans le détail son petit parcours à lui. Il n'y allait pas dans le cadre d'une mission. Il y a de très belles photos, des dessins originaux. Et si toutes ces histoires-là vous mettent en appétit, sachez que ce numéro comprend aussi quelques articles, malheureusement, toujours d'actualité. On n'en sort pas sur d'autres crimes policiers, là encore, toujours la même chose, toujours une justice qui couvre. Cette fois-ci, on ira à Nancy et à Marseille pour voir les affres de la BAC là-bas. Il y a aussi un article assez long qui s'appelle « Fièvre du gaz de schiste en Argentine ». C'est sur un terrain qui est à peu près la superficie de la Belgique. Et les compagnies qui, pour l'instant, se sont faites plutôt discrètes en France, tentent d'aller s'implanter là-bas. Voilà, et dans des choses peut-être un petit peu plus légères, un article assez inattendu sur une lecture politique de la série Game of Thrones. Donc si vous avez le malheur de passer beaucoup trop de temps devant la télévision à regarder des séries, et ben peut-être malheureusement que cet article vous donnera d'autres raisons de le faire. Voilà, et pour terminer d'évoquer un petit peu le contenu succinctement de ce nouveau numéro de CQFD, un petit article sur nos amis les imprimeurs qui publient l'intégrale de Karl Marx en le faisant imprimer en Chine ou en Bulgarie. Voilà, ça vanne un petit peu, ça reste toujours très frais, c'est beau, c'est chaud, c'est CQFD qu'on retrouvera peut-être la semaine prochaine. Merci Julien de ce rappel au sommaire.
De rien. Et je voulais noter aussi que Rico n'est pas là, mais il aurait été déçu parce que La Dépêche ne publie pas les anniversaires du jour aujourd'hui.
La Dépêche ne publie pas les anniversaires. Et je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être que c'est Rico qui fait les en sous-main.
Chose, ouais.
C'est lui qui écrit les trucs anniversaires pour lui-même se reciter. Ça m'étonnerait pas du tout, ouais. Connaissant le personnage. Ceci étant, La Dépêche ne publie pas les anniversaires. Publie quand même une info sur un McDo qui a brûlé,
oui,
à Plaisance du Touche. Un McDo écolo, puisqu'il était en bois.
C'est en bois vert, parce qu'ils sont pas en vert maintenant.
Ils sont pas en vert. C'est pas beau ça, le journalisme d'investigation à La Dépêche. Le McDo était pas en vert. C'était donc un McDo écolo. Dans deux secondes, les journalistes de La Dépêche vont nous reparler de la piste José Bové pour continuer à nous faire rire avec cette vieille histoire. Et ce vieux mensonge. Non, blague à part, il y a vraiment un McDo qui a brûlé. Bref.
Sachant que ça peut pas être José Bové, puisqu'il était vert, le McDo.
Non, mais ceci étant, incendie. Incendie, extinction d'incendie, tu vois venir la transition.
Ah qui ouais, il y a une cellule anarcho-autonome là derrière.
Non, barrage, n'importe quoi.
C'est bien ce que je dis.
Et encore un barrage inutile, je rêve. On va vous parler barrage maintenant, et pour changer, on va pas partir du côté du Tarn, ni du côté de l'Ariège, parce qu'il faut qu'on vous fasse quand même dans la série les petites annonces. La semaine prochaine, c'est pas sûr que ce soit prêt, il y aura peut-être CQFD, il y aura peut-être un autre chose, mais si c'est pas la semaine d'après, c'est ça, celle d'après. Notre fameux petit reportage sur le barrage de où ?
Montferrier.
Voilà.
En Ariège.
On va vous faire on vous a préparé une petite émission sur un grand barrage inutile, tellement inutile que d'ailleurs il ne s'est jamais rempli.
Un petit barrage.
Voilà, petit barrage, tout petit barrage. Mais là, en attendant ce scoop, on part du côté de la Loire, dans le parc naturel régional du Pilat, où vient de s'achever la construction d'un barrage qui peut s'enorgueillir d'être, pour le coup, parfaitement inutile. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, Firminy, donc c'est juste à côté de Saint-Étienne, on est en 1958, et les élus de Firminy, donc, font construire sur la Semaine, c'est le c'est pas la blague, c'est le nom du petit fleuve local, c'est leur Testou local. Ils font construire sur la Semaine, à 15 bornes de leur ville, le barrage des Plats. PLATS. 22 mètres de hauteur, 1,5 million de mètres cubes de retenue, c'était déjà du sérieux. Alors, la ville était déjà approvisionnée en eau potable par le barrage de l'Arpre, mais avec ses 850 000 mètres cubes, ça pourrait peut-être pas suffire, puisqu'à l'époque, on nous le jurait, la population de Firminy allait bientôt attendre les 100 000 habitants. Alors, il n'était que 24 000, mais c'était une projection, et une projection qui, comme souvent, hein, la science, c'est une science inexacte, puisqu'entre-temps, ils ne sont pas passés de 24 000 à 100 000, mais de 24 000 à 17 000. Voilà. Donc, un barrage qui, déjà, ne servait à rien, et non seulement ça, mais en plus, il se fissurait depuis 2005. Les services de l'État recommandaient d'y aménager une ouverture de manière à ce que la Semaine retrouve son cours, ce qu'elle fait. Alors tout se passe bien, au grand plaisir des truites, fario, écrevisses à pattes blanches, tanches et autres loutres, et même une rare colonie de moules perlières. Voilà, la biodiversité de la Semaine à l'époque lui vaut d'être classée réserve biologique en 2012. Et Firminy ne crève, donc la ville ne crève pour autant pas de soif, puisque en plus de la réserve de l'Ardre, donc l'hôte, celle qui était la plus petite, 850 000 m3 quand même, ça suffisait déjà largement. Et en plus, elle possédait une conduite d'eau qui la reliait à Saint-Étienne, qui, elle, dispose d'une réserve de 42 millions, vous avez bien entendu, 42 millions de mètres cubes d'eau, qu'elle n'utilise qu'à moitié. Donc là, je veux dire, que d'eau, hein. Eh ben non. On aurait pu penser que le barrage des Plats ne méritait juste qu'à rester en l'état une petite oraison funèbre et c'est fini. Mais pour les élus de Firminy, pas question. Ils y tiennent, ils veulent mordicus le rafistoler, leur foutu barrage. Donc, en octobre 2007, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors sous-ministre dans l'environnement, avait affirmé le député maire UMP Dino Cenieri qu'elle ne jugeait pas la chose utile. Et ça, c'est dur à dire. Hein. Mais elle avait changé d'avis, et le 18 mars 2014, il y a un peu plus d'un an, donc à l'époque où on commençait déjà bien à parler de ces histoires de tester, donc ces gens-là savent ce qu'ils font, bien sûr, hein. Malgré les réserves et des services de l'État, la préfète de la Loire a signé l'arrêté de reconstruction du fameux barrage qu'on avait percé, hein, toujours, et tout ça au frais du contribuable, bien sûr.
Donc en fait, ils le vident.
Ils le construisent, ils se fissurent, donc ils font un trou. La rivière retrouve son truc et il ne manque d'eau à personne, mais quand même...
Et du coup, il est vide, le barrage, s'il est fissuré.
Il est vide. Ouais. Il est vide. Il y en a au moins un qui suit, exactement. Mais ça ne va pas durer longtemps.
En fait, collectionne les barrages vides.
C'est comme on enfile sur un petit collier, un collier de barrages vides, s'il vous plaît. Mais ce coup-ci, ce n'est pas la CACG. Mais donc, tout ça pour 6 millions d'euros. Alors, les associations n'avaient pas apprécié, hein, et ils dénonçaient que pour sécuriser l'eau potable, la mutualisation des réserves d'eau était une solution bien moins chère. Donc, utiliser toutes ces grandes conduites d'eau qu'on a déjà construites à grands frais partout, on dit quitte à ce qu'elles soient là, peut-être on peut équilibrer un peu tout ça. Mais non. Entre-temps, la mairie a changé de bord, puisque maintenant c'est un maire PC. Le maire PC de Firminy avait contre-attaqué. Il y a quelques mois, on a failli manquer d'eau, c'était grave. Il n'avait pas alerté les gens pour qu'ils ne s'affolent pas. Merci monsieur le maire, non mais des gens en qui on peut avoir confiance. Alors question, pourquoi n'avoir pas sollicité Saint-Étienne dans ce cas-là, puisque eux ils ont 21 millions de mètres cubes qui dorment. La ville a passé un contrat avec Suez, une multinationale privée, se réécrit le maire, et puis c'était trop cher. Alain Bonnard, donc le mec d'une fédération écolo Rijaune, le maire reproche à Saint-Étienne de jouer la marchande d'eau. Or, Firminy vend l'eau du barrage des Plats aux autres communes. Il veut surtout profiter de la manne. Voilà donc encore une belle histoire. Alors, évidemment, l'article, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ce qu'on sait, c'est que ça va coûter cher.
Du coup, l'eau de Firminy, c'est gestion privée ou publique ?
Ça c'est pas précisé, quelle question très pertinente, ouais. Qui me met à sec. Je ne sais pas. Puisqu'ils l'avons aux autres communes, on peut penser que c'est une gestion municipale quand même, hein.
Ouais.
Évidemment, gestion municipale avec de l'argent public. Bref, tout ça sent bon. Alors voilà, les histoires de barrages ne s'arrêtent pas. Et la mobilisation contre les barrages ne s'arrête pas non plus.
Bah oui, puisque lundi dernier à Sivens, il y a une trentaine de loulous qui ont débarqué sur la zone. Parce que, en fait, quand ils se sont fait expulser, les flics avaient foutu un joli bordel. Ils avaient cramé toutes les affaires, toutes les cabanes, tout ça. Puis ils avaient tout foutu dans le champ, comme ça, à la volée. Et il se trouvait que bientôt, vu que c'est le printemps, les vaches vont revenir paître dans les prés. Et que donc, elles étaient sensiblement, potentiellement victimes de manger des saloperies. Et donc ça n'est pas trop passé, donc ils sont allés sur la zone lundi dernier, un peu pour voir déjà comment c'était foutu, ce qu'ils avaient fait depuis. Enfin, je parle des opposants, hein, au barrage. Et ils sont retournés pour nettoyer tout ça. Donc ils sont arrivés un peu avant 7h du mat. Ils ont passé 2-3 heures sur site. Là, il y a un paquet de gendarmes et de flics qui sont arrivés à grand renfort de camions, de flashballs et de tout team.
Ça rappelle des souvenirs.
Ouais. Ils étaient beaucoup, apparemment.
Ouais.
Donc voilà. Et puis, bah, ils se sont fait expulser gentiment. Ils n'ont pas opposé de résistance particulière. Ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont vu un peu quel effet ils avaient sur nos forces de l'ordre, toujours au taquet. Et ils sont revenus et ils ont écrit un petit texte qui s'appelle « On est encore là ».
Ça serait pas mal de le lire, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je vais faire ça, ouais.
Ah, c'est bien, ça.
« On est encore là ». Aujourd'hui, lundi 11 mai, donc c'était la semaine dernière, on est revenu chez nous sur la ZAD, au petit matin. Notre objectif était de nettoyer les lieux du verre et du fer laissés par les démolisseurs, afin que les vaches puissent brouter en paix. Aussi, ce fut l'occasion de réaffirmer que ces lieux nous appartiennent, que nulle surveillance policière ne nous empêchera d'y être. Notre action ne vise pas à nous faire bien voir de la part du Conseil Général, afin qu'il écoute nos propositions d'aménagement du territoire. Nous nous refusons également à lui faire la morale pour qu'il tienne sa promesse de réhabiliter les lieux. En effet, nous prenons nous-mêmes en charge la remise en état d'une zone qui nous tient à cœur, contrairement au Conseil Général qui n'aura aucun scrupule à continuer sa destruction. Ce serait conforter le pouvoir des responsables de cette désolation que de co-gérer avec eux la restauration de la zone. Nous avons voulu également montrer notre détermination à préserver la métairie neuve, menacée de destruction, bien qu'elle soit classée « bâtiment remarquable ». Ce n'est pas seulement le symbole de notre opposition au barrage que nous voulons défendre, mais aussi une bâtisse vieille de 3 siècles, inhérente au paysage. Notre opposition au projet de barrage est intacte. Des opposants au barrage.
Et ben voilà.
Et voilà. Pour rappel, la métairie neuve était le bâtiment que les bien nommés zadistes par la Dépêche et autres médias avaient squatté pendant un bon moment et qui était un peu le quartier général de la lutte à ce moment-là.
Exactement. Eh bien, très bien, très bien. Alors, avant de retrouver Annie Thébaumoni dans le montage dont on vous parlait tout à l'heure, peut-être quelques mots sur le festival Le Vent se lève à Job, qui a pour joli titre « Sortir des dominations », sous-titre « Sexisme, savoir, racisme, souffrance au travail ». Donc, pendant une semaine, un festival d'éducation populaire pour se retrouver, déjà, bon, pour écouter, voir des spectacles, des films, des concerts, mais aussi pour discuter de comment sortir de tout ça, comment détruire ce qui nous détruit. Un beau programme, ça commence aujourd'hui avec des ateliers cuisine vegan, des ateliers réparation vélo, du jazz manouche à 19h et à 20h45 on pourra écouter Jessie Cormon qui vient d'une association d'éducation populaire du Nord-Pas-de-Calais pour nous faire une conférence, est-ce que c'est gesticulé d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, c'est un conférence débat sur le thème quartier populaire banlieue, l'égalité en colère, racisme, islamophobie, sexisme et de classe. Force est de constater que l'abandon incessant des classes populaires est le résultat de l'absence de prise en compte des fractures de classe, race, sexe et âge traversant l'ensemble de la société française. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est ce soir. À partir de ce soir, à l'espace Job, ça va durer toute la semaine, c'est plutôt les après-midi, sauf samedi.
Et il y aura notamment une conférence gesticulée sur la CAF, qui est assez intéressante et qui vaut le détour, pour savoir comment fonctionne tout ce bordel. Savoir que la CAF distribue pas moins de 27 prestations différentes, c'est une sacrée usine à gaz.
Et ça sera samedi.
J'ai pas la date, c'est toi qui as le calendrier.
Oui, mais je l'ai sous les yeux, mais tu vas prendre au deux cours. Ça sera samedi à 20h45, effectivement. Je vais tout cafeter avec un jeu de mots, CAF.
C'est ça.
Slash.
C'est une jeune femme qui a travaillé à la CAF pour évaluer le pourquoi du comment, pourquoi les gens ne demandaient pas le RSA, puisqu'une bonne partie des gens qui y ont droit ne le demandent pas. Cette bonne partie s'élevant à peu près à la moitié, je pense. Donc c'est assez intéressant, ça vaut le détour, quoi.
Très bien. Et donc, pour récapituler, il y a ça ce soir. Avant, on pourra se retrouver à 19h devant le palais de justice pour le rassemblement en rapport avec les histoires de l'affaire et les jugements dans l'affaire de la mort de Zied et Bouna il y a bientôt 10 ans. On va retrouver Annie Thébaumoni, donc cette sociologue de la santé qui refusa la Légion d'honneur. Avant, on écoute
un peu de musique.
Un peu de musique. Ouais. Les Rouros. Wrong Game Boy. Thank you.
start all over again, hein. Why do you try to cheat in such a small, small game? Don't you know it was wrong to cheat the trying man? Don't you know it was wrong to cheat the trying man? Don't you know it was wrong to cheat the trying man? Don't you know it was wrong to cheat the trying man? Someday trample people under your feet, you better stop. It is a wrong emboyer.
Le droit de tuer, il est concomitant de la montée du capitalisme. Assurément, il y aura des morts. La seule chose qu'on n'est pas capable de dire, c'est sur qui ça va tomber. Des industriels se sont acquis le droit de tuer parce que une maladie met longtemps à apparaître. Annie Thébaumouni, sociologue directeur de recherche honoraire à l'INSERM. J'ai également des engagements citoyens pour lutter contre les cancers professionnels, les maladies environnementales et pour la condamnation des crimes industriels.
Cancer, le mot seul fait déjà peur. Maudit crabe, tumeur maligne. Qui n'a pas fait l'expérience de la lente dégradation d'un proche, de la disparition soudaine? Qui n'a pas eu peur à la découverte d'une boule, d'une tache? Les grains de beauté, si on les arrache, ça file le cancer. Fais gaffe au soleil, tu vas attraper le cancer. Tu fumes? T'étonnes pas après si tu chopes un cancer. Ah, il paraît que ça file le cancer. Tu cuisines avec ça, toi? Moi, j'ai arrêté. On s'est habitué à sa présence. On a notre petite stratégie santé. Mange bio, vie saine, bicyclette. Mais on en sait quoi, en fait, du cancer? En France, l'épidémie de cancer flambe. En 2012, on compte 355 000 nouveaux cas. Environ deux fois plus qu'en 1980. Les maladies neurodégénératives, les allergies, la stérilité masculine ou féminine, les atteintes à la santé mentale ne cessent d'augmenter. Des menaces plus diffuses concernent la non-gestion des déchets miniers, électroniques ou nucléaires, la pollution atmosphérique par les particules de diesel, mais aussi le nombre croissant de lieux contaminés par les métaux lourds, l'arsenic, l'amiante, les produits organiques persistants et les perturbateurs endocriniens, en particulier les pesticides. Le plus souvent, invisibles dans les statistiques officielles, les inégalités sociales face à la maladie et face à la mort s'accroissent. En 1984, un ouvrier avait 4 fois plus de risques de mourir de cancer qu'un cadre supérieur. En 2008, ce risque est 10 fois plus élevé. Le scandale de l'amiante et celui des pesticides ont dévoilé l'implication active des industriels dans le déni des risques et de leurs conséquences. L'incertitude sur les effets à long terme de nouvelles créations industrielles, mais aussi sur ceux des faibles doses de toxiques déjà parfaitement connues, alimente des débats et controverses au cours desquels les scientifiques s'affrontent avec des arguments contradictoires, souvent peu compréhensibles pour des citoyens sans formation spécialisée. Ainsi s'instaure un climat de doute et de soupçon qui creuse le fossé entre savants et gens ordinaires. Tout se passe comme si les premiers détenaient un savoir scientifique indiscutable, tandis que les seconds ne disposeraient que de connaissances empiriques profanes. Chacun est alors confronté à ces questions essentielles. S'agissant de la vie, de la mort, de la santé, qui croire, qui dit vrai, que nous cache-t-on, à qui profite la science ? Dans son dernier livre, La science asservie, paru en 2014 à La Découverte, Anita Beaumoni nous donne un autre récit que celui des comportements et des manques individuels. C'est une toute autre histoire qui se déplie alors. Et ça change pas mal de choses. Elle nous parle des poussières et des fibres, elle nous parle des cancérogènes, de ce qui donne le cancer. Et les principaux acteurs sont des industriels assoiffés de profit et des scientifiques peu scrupuleux. Il n'est plus question de la faute à pas de chance et des modes de vie, mais du calcul cynique entre profit et mortalité. L'histoire du cancer est l'histoire d'une impuissance politique organisée. Une impuissance à éviter d'être exposée à la maladie. C'est l'histoire d'une façon de compter les morts plutôt que de protéger les vivants. C'est l'histoire d'un crime industriel. De passage à Toulouse, invité au Bijou par l'Université Populaire le 29 avril 2015, ironie du sort, c'est à moins d'un kilomètre du site d'AZF, aujourd'hui devenu un cancéropole, que nous l'avons rencontré.
Les cancéropoles n'ont pas du tout développé un soutien actif pour briser l'invisibilité des cancers professionnels, que ce soit à Toulouse ou en Île-de-France ou ailleurs. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que je défends, et je l'ai défendu avec Henri Pézerat pendant des années, chaque fois qu'on a travaillé ensemble, l'idée que les registres de cancer devraient... D'abord, il devrait y avoir un registre départemental pour chaque département, et chaque cas de cancer est en quelque sorte un événement sentinelle. Et donc, il serait nécessaire, même si ça n'a pas été fait jusque-là, et on a un déficit de connaissances à cause de ça, il serait nécessaire que pour chaque cas de cancer, il y ait la reconstitution du parcours professionnel et de l'histoire résidentielle. Et là, on pourrait véritablement travailler sur les facteurs de risque, donc lutter véritablement contre le cancer, c'est-à-dire contre la survenue, arrêter la chaîne de contamination. Et au niveau résidentiel, on sait par exemple les personnes qui vivent, non seulement ont travaillé à Salsigne, mais vivent à Salsigne, sont exposées à l'arsenic. Les personnes qui vivent à proximité des centrales nucléaires, certaines de ces centrales, on le sait, rejettent des produits radioactifs et mettent en danger la population riveraine. Si on faisait ce travail-là, si on l'avait fait déjà depuis 40 ans, on aurait des cartographies beaucoup plus précises de là où sont les risques et on pourrait les combattre. Encore faut-il avoir la volonté politique de le faire, et c'est là où on revient au poids des lobbies industriels auprès du pouvoir politique, c'est-à-dire que la santé publique est le parent pauvre complètement actuellement de la politique européenne et de la politique française. Le gros problème quand on propose quelque chose comme je viens de l'évoquer, c'est que ça va pointer du doigt quels sont les responsables. Et c'est surtout ce que les pouvoirs publics ne veulent pas faire.
Colère et immense déception pour les familles des victimes de l'amiante en Italie et plus largement dans le monde. Dans l'affaire Eternit, la Cour de cassation italienne a annulé la condamnation à 18 ans de prison de Stefan Schmitaini. Cet industriel suisse avait été reconnu coupable d'avoir provoqué la mort de centaines de personnes dans ses usines d'amiante. Mais la plus haute juridiction italienne a considéré que les faits étaient prescrits. Ça nous a tous surpris, réagit ce proche d'une victime. En plus, dans le tribunal, dit-il, il y avait comme une atmosphère théâtrale. Tout semblait déjà dit, déjà décidé. Certains riaient même. Ce verdict sonne comme une amnistie, dit cette femme. L'Italie, qui se voulait un exemple, nous a dit aujourd'hui que Schmitaini est un homme libre, il n'est plus inculpé. Selon le procureur, l'affaire Eternit aurait dû être considérée comme prescrite dès 1998, 12 ans après la mise en faillite de la société en Italie. Ce procès était considéré comme le plus important du genre. Environ 3000 ouvriers ou riverains de 3 usines en Italie sont morts des conséquences de leur exposition à la fibre.
Est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, il faut repartir au XVIIe, XVIIIe siècle avec la mise en évidence par des médecins qui avaient une maladie, souvent respiratoire, c'était une maladie du poumon, mais comme on ne pouvait pas les voir trop à l'intérieur, on ne savait pas trop, mais qui était manifestement différente de maladies de type infectieux, qui étaient plus brutales, plus soudaines. Et puis, soit on en mourait, soit on en guérissait à l'époque. Enfin, il y a des observations dans la littérature. Quelqu'un comme Ramazzini, en 1700 et quelques, identifie des maladies qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le cancer. C'était une espèce de maladie... pas par hasard qu'on l'appelle dégénérative, c'est-à-dire que ça pouvait durer relativement longtemps. Et en fait, il faut attendre évidemment que la médecine dispose d'outils diagnostiques qui permettent d'identifier ce qui se passe au niveau de la cellule et puis toute l'imagerie médicale. Donc, en termes de diagnostic sur le cancer, c'est quand même le début du XXe siècle. Enfin, mais là, très rapidement, qui va prendre la main sur ces connaissances-là ? Ce sont les industriels. Pourquoi ? Parce que ils sont les premiers à se rendre compte que leurs ouvriers meurent ou tombent malades. Alors, il y a des maladies comme la silicose qui sont une insuffisance respiratoire progressive mais qui dure. Et puis le cancer quand même, le cancer pulmonaire en particulier, c'est pas en quelques mois comme la tuberculose, c'est sur 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est une maladie qui progressivement s'autonomise par rapport aux maladies qu'on connaît avant. Que font les industriels quand ils s'en rendent compte que il y a des problèmes de santé graves? Alors, la maladie emblématique, c'est celle de l'amiante. Ils vont faire toute une série de recherches. Ils vont faire des recherches à des scientifiques et avec le concours de médecins. Et par exemple, pour l'amiante, dès les années 30, les industriels savent tout sur les différentes maladies liées à l'amiante. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire, on sait qu'il y a la maladie de type fibrose, qui est une maladie invalidante, mais qui peut durer des décennies. Et puis, il y a le cancer. Sauf que à ce moment-là, ils décident que ça risque de mettre en cause la production de l'amiante. Et c'est le silence. C'est-à-dire qu'ils obligent les scientifiques et les médecins à ne pas divulguer cette information, à ne pas publier. Là, les industriels confisquent le savoir. Et c'est vrai, alors j'ai pris l'exemple de l'amiante, mais c'est vrai pour la radioactivité, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour le plomb. You know, you age advanced and you know the music machine.
democratic machine.
C'est le fait que les poussières, poussières métalliques, les fibres, des poussières, des produits chimiques, des substances toxiques, sont identifiées comme altérant la santé. On a des textes très très anciens, alors, qui remontent même à l'Antiquité pour le plomb, pour le mercure et même pour l'amiante. On a des textes relativement plus récents sur tout ce qui est la chimie, avec des toxicologues au XVIIIe siècle qui font, par exemple, qui présentent des observations sur ce que provoque l'arsenic, le plomb, le mercure, des dérivés du pétrole qui ne s'appellent pas encore comme ça, mais c'est un peu ça quand même, des solvants, enfin, toutes ces molécules que des chimistes commencent un petit peu à manipuler et à jouer à l'apprenti sorcier, font qu'à la fin du 19e siècle, il y a cette loi qui est extrêmement importante, parce que ça aurait dû être le socle de la prévention au milieu de travail. Et cette loi, elle est mais alors très claire sur... Le patron a une obligation, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire, il doit maintenir l'atmosphère des ateliers de telle sorte que la santé des ouvriers ne soit pas altérée. Cette loi de 1893, elle marque la prise de conscience que l'industrie est en train quand même de générer tout un ensemble de pathologies et que donc la responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'empêcher que, enfin, de produire des textes qui obligent les employeurs à respecter des exigences. Et c'est très parallèle au mouvement d'hygiène publique de l'époque qui est sur... la lutte contre l'insalubrité au niveau urbain, l'eau potable, la lutte contre le choléra. Enfin, à partir du moment où on commence à avoir une vision un peu plus précise d'un certain nombre de maladies, l'idée, c'est quand même de dire il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter il faut combattre les risques. Et malheureusement, cette loi de 1893 sera recouverte par la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui, au lieu de dire on va rechercher les causes d'accidents et chaque fois qu'il y a un accident, on va faire en sorte que le risque subi par le travailleur disparaisse au nom de cette loi de 1893, la loi de 1898 dit quelque chose qui est complètement contradictoire avec ça. C'est on ne s'occupe pas de la cause, il y a des victimes, ce sont les dégâts du progrès, il faut indemniser les conséquences. Et c'est cette loi-là qui va, en fait, devenir l'outil de référence pour les industriels, pour les employeurs, pour ne pas s'occuper de la prévention. On déplace le problème dans le champ de la négociation sur combien on va indemniser, comment on va indemniser. Tout le débat va être l'évaluation du préjudice vu d'un point de vue médical, donc vu d'un point de vue d'expert et pas du tout vu du point de vue des victimes. Et la logique d'assurance, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ce sont les experts qui vont évaluer quel est le préjudice. Et la victime, elle a juste à se taire. Il n'y a pas une société dans laquelle il y a une autorisation de tuer, sauf la guerre, sauf enfin, disons le pouvoir répressif à un moment donné pour sanctionner. Mais le droit de tuer, il est concomitant de la montée du capitalisme. Enfin, il y a différents auteurs qui montrent comment, progressivement, la rationalité économique va être considérée comme un intérêt supérieur par rapport à ce qui est alors jamais posé comme ce permis de tuer, parce que évidemment les industriels ils n'aiment pas ça qu'on dise qu'ils ont l'autorisation de tuer, mais ça va être il y a des dégâts collatéraux, mais pour le progrès il faut accepter ça. La loi sur la salubrité des ateliers est portée par certains parlementaires en lien avec le mouvement ouvrier. Mais en parallèle, il y a tout le problème des accidents du travail. Et à cette époque-là, c'est dramatique. Hein. Il y a des estropiés dans les rues, il y a des familles qui sont réduites à la misère. Et une partie du mouvement ouvrier... Et alors en plus, les procès, ça n'aboutit jamais. Donc, le raisonnement qui consiste à dire aux ouvriers, on va trouver un système de réparation automatique et qui permettra que vous soyez à l'abri du besoin, rencontre l'accord d'une partie du mouvement ouvrier et de ceux qui sont leurs porte-parole au Parlement, c'est-à-dire qu'il y a un débat parlementaire qui dure 20 ans sur cette loi-là aussi. Les deux sont menés quelque part en parallèle. Et la partie du mouvement ouvrier qui est sur la réparation rapide, la possibilité de ne plus avoir à aller en justice, de ne plus avoir à prendre d'avocat, l'emporte. Et puis surtout, enfin, c'est ce qu'on connaît ensuite, si on prend un siècle et quelques plus tard, quand il y a eu l'histoire de la loi sur le FIVA pour les victimes de l'amiante, c'est exactement le même scénario. C'est-à-dire que c'est la carotte. On dit aux ouvriers, on va vous faire un truc fantastique, vous serez indemnisés dans des conditions rapides. Et est meilleur que les conditions pénibles de la réparation, etc. C'est-à-dire que c'est un peu le miroir aux alouettes, mais ça marche. Et à partir de là, la prévention à partir de la loi sur les accidents du travail, c'est dramatique, parce que les industriels s'engouffrent là-dedans, et il n'est plus question de prévention. Et il faudra même attendre après la libération, et même à ce moment-là, et même aujourd'hui, on le voit bien, les deux piliers de, je dirais, des luttes au niveau syndical, c'est l'emploi et l'indemnisation. Et ça n'est pas la prévention. C'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail, le fait que les... Enfin, ne pas perdre sa vie à la gagner, il y a une petite minorité du mouvement ouvrier qui dit ça. Mais l'essentiel du mouvement ouvrier dit on a besoin d'un salaire, et c'est pas faux, et donc d'un emploi. Et tout ce qui... Alors, il y a une habileté du patronat à exploiter ça, qui est réelle, pour dire c'est contradictoire avec... si vous m'embêtez sur les conditions de travail, alors on délocalise, alors on ferme, alors... donc vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. En gros, le patronat, il dit tout le temps ça. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on a énormément de mal dans des périodes de chômage comme celle-ci à ce que y ait des mobilisations qui dépassent, je dirais, des petits collectifs qui se battent là-dessus, mais qui se battent parfois même contre le reste du syndicat et le reste des collectifs ouvriers, quoi. Donc, cette contradiction-là, elle est présente depuis deux siècles. Et puis, sur l'interdit de tuer, enfin, petits arrangements avec la loi, ça, enfin, ça ne fait que croître et embellir. Pratiquement, le capitalisme est fondé sur la mort des ouvriers.
Ils nous guettent,
ils nous mentent,
ils nous tourmentent,
ils nous tuent,
ils nous mentent, ils nous abattent, ils nous insultent, ils nous mentent, ils nous tourmentent,
ils veulent nos têtes,
ils nous tuent, dans la rue,
ils nous abattent,
ils nous mentent, ils veulent nos têtes. Ils veulent nos têtes.
Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
Je lutte, parce qu'on me rejette. Mais sur ma route, enquête, puis écoute. Et qu'on y ajoute des coups de tête et puis des coups de latte. Donc mate tous ces coups de pute en fait que l'on goûte. Et nos défaites ici sont à la fête. Parfaites en somme pour inspirer la crainte. Donc rien n'arrête les batailles que je décrète. Même si les flammes des émeutes sont éteintes. Moi, ce prototype que l'on tape. L'archétype de la sale gueule dont on flippe. Et qui ne franchit jamais aucune étape. Sans qu'on me palpe du scalp jusqu'au slip. J'écope de la perpète. Entre les parfums où mon histoire se répète. Tu sais la répression ici est comme un beat. Brut et en rute, elle ne te rate pas, il se précipite.
Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
Sur moi, ils lâchent la meute. Ils veulent mater les pommates et promettent de passer fer, bar et puis gourmette à ceux qui se révoltent et ceux qui comptent s'y mettre. Et ce n'est pas un mythe, sache qu'on nous pousse dans nos limites. Et quand on monte, tout comme le vélo d'Imat, une toute petite allumette peut de suite chauffer une tête qui dans la minute éclate. Tout ça alimente nos tourmentes, ils nous mentent, nous dégoûtent, nous tentent à la vie délinquante et nous déroutent. Et si on dérape, ils nous agrippent, déploient leur force de frappe et nous font sauter les tripes. Je sais ça t'échappe, mon monde et mes sapes, mes ondes, mon équipe et mon handicap. Mes principes, mes mauvais tripes et puis mon rap. Donc ce que je récite, je suis pas sûr que tu le captes. J'adopte la vengeance comme seul but. Et la tolérance n'est pas trop dans mon concept. On nous souille, nous dépouille et nous insultes. Donc nous ne sommes pas de ces têtes que l'on accepte. Pour ça j'évite leur droit de vote. La prime au mérite a fait monter ma cote. J'ai tout leur keuf et ils s'en félicitent. Et dans l'air une odeur de bavure qui m'irrite. Alors que m'écoutent les élites délicates et que constatent les putes de politique. Si certains frères hésitent et puis comatent, je me répète, vous et moi ne sommes pas quittes.
Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
C'est ma teinte qui les éreinte et puis oriente. Leurs assauts et nos décès dans leur descente. Et s'ils s'excitent, nos têtes sautent. Ils s'emportent, justice clémente. Et de suite ils s'en sortent. Nos vies défuntes ou en miettes. Ils s'en foutent, c'est sur nos appartements qu'ils empiètent. Nous mettent dans la lunette des chiottes. Tirent la chasse qui alors emmène leurs chiasses et la flotte. Donc j'en prends note et n'ai aucune attente. La fuite ou la faim te laisse trop dans la fiente. Ils guettent, battent, ligotent, mènent à la baguette et mijotent. Qui n'est pas leur pote, te souhaite la chute ou le shoot. Une existence méchante et puis faite de doute. Peu alléchante donc frère écoute. J'ai choisi de combattre pute et traite et leur porte de les abattre toutes.
Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
Le cancer, c'est pas une cause, un effet. C'est pas, contrairement à la représentation dominante, qui est un matraquage permanent, qui est de dire le cancer, c'est le tabac. Et à défaut de tabac, peut-être que c'est l'amiante, mais c'est une représentation d'un instantané sur la relation entre un risque et une maladie. Or, le cancer, c'est biologiquement une histoire, une double histoire. L'histoire de la rencontre entre chaque individu et des cancérogènes. Et c'est pas un seul, c'est tout le long de décennies. Et puis, c'est l'histoire de la réaction, enfin, l'histoire des réactions de l'organisme face à ces agressions que sont qu'est l'exposition à des cancérogènes. Et donc, on dit souvent qu'il y a un délai de latence très long entre exposition et maladie. C'est une mauvaise expression parce que, en fait, on peut considérer que dès qu'il y a rencontre avec un cancérogène, il peut s'être passé quelque chose au niveau des cellules, mais qu'ensuite, ça va être un processus très complexe où on multiplie les agressions. Je vais prendre l'histoire d'un maçon qui commence à travailler à 17-18 ans comme apprenti maçon et qui, là, va rencontrer au minimum deux cancérogènes, l'amiante et la silice. Bon, déjà, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Savoir lequel des deux commence, impossible. Et ensuite, ce maçon, il va continuer pendant des décennies à être au contact de ces deux cancérogènes, mais en plus, il va s'en ajouter d'autres, c'est-à-dire que au fil des techniques, par exemple, les peintures, il y a les pigments de peinture, mais il y a aussi les solvants, et puis la différenciation des solvants. Il y a eu le plomb, et puis on a remplacé le plomb par autre chose, etc. Et en fait, cette histoire-là, la seule chose qu'on peut reconstituer a posteriori, c'est quelles expositions, et encore, c'est pas toujours facile, mais disons que... Mais ce qu'on peut pas dire, c'est comment ça a joué dans son organisme, parce que parallèlement, il y a des mécanismes de défense au niveau de l'organisme qui vont permettre que, malgré tout, l'organisme résiste, mais résiste jusqu'à un certain point. Et lorsque survient le cancer, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il a rencontré tel et tel et tel et tel cancérogène qui doivent être considérés comme ayant pu jouer un rôle. Et le plus probable, c'est que chacun a pu jouer un rôle. Mais le raisonnement qui consiste à dire, la représentation qui consiste à dire, puisqu'il a fumé, ça ne peut pas être l'amiante, c'est scientifiquement faux. Et pourtant, c'est le raisonnement qui est majoritairement tenu par tous les médecins.
On va propager, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, des fausses nouvelles sur le fait que l'amiante est un produit naturel, que oui, c'est peut-être dangereux, mais on peut maîtriser le risque, comme l'eau et le feu. Hein, voilà, on maîtrise l'eau, on maîtrise le feu, on va maîtriser l'amiante. Voilà. Que c'est pas parce qu'il y a des accidents de la route qu'il faut interdire la voiture, donc c'est pas parce que l'amiante tue qu'il faut interdire l'amiante.
La mise en évidence du lien entre un cancérogène et une maladie, elle se fait sûrement à partir de plusieurs disciplines scientifiques. Henri Bezerra, il a travaillé sur les mécanismes de cancérogénèse à partir de la fibre elle-même. Et pour l'amiante, par exemple, il a montré que ce qui était en jeu, c'est le mécanisme physico-chimique lorsqu'une fibre entre en milieu biologique. Ce type de recherche est venu très tardivement parce que les industriels qui probablement avaient fait des recherches de ce type ou en expérimentation animale ou en biologie cellulaire, enfin des approches qui en toxicologie pouvaient dès le début, c'est-à-dire dès les années 20-30, dire on est sûr que là c'est une substance dangereuse. Et ils ont dissuadé des recherches faites de façon indépendante sur la toxicité des produits pour enfoncer le clou qu'il fallait prouver avec des statistiques qu'il y avait un lien statistiquement significatif entre l'exposition à l'amiante et le cancer. Et là, alors, il y a toutes les stratégies malhonnêtes qui consistent à dire c'est pas suffisamment significatif, il y a du tabac. Alors, ils l'ont fait dire par des scientifiques qu'ils ont payés, dont le fameux Dole et Peto, enfin Dole et puis son collègue Peto, qui sont devenus, enfin Dole en particulier, est devenu l'épidémiologiste mondial qui dit la vérité sur la science du cancer. Et à partir de là, ça a créé à l'intérieur de la communauté scientifique une sorte de hiérarchie entre une discipline reine qui est l'épidémiologie. Et tant qu'on n'a pas l'épidémiologie, les industriels n'acceptent pas de reconnaître qu'une molécule est dangereuse. Du fait de la complexité de la maladie cancer, ce n'est pas toutes les personnes qui sont exposées qui vont faire le cancer et qui vont le faire dans les mêmes conditions. Et donc, la méthode statistique, c'est une méthode, je vais être un peu raide, mais c'est une méthode extrêmement grossière. C'est-à-dire qu'il faut des grands nombres et je dirais que ça s'arrête pas au détail. Donc, quand on n'a pas une homogénéité sur un très grand nombre, à ce moment-là, on ne trouve pas les mêmes résultats, etc. Et là, c'est la fabrique de l'incertitude, c'est la fabrique du doute. Et ça revient dans les exigences qui sont posées au niveau de la communauté scientifique, puisque ça devient une idéologie dominante, pour dire qu'il y a un lien entre un cancérogène et le cancer, eh bien, c'est l'épidémiologie qui va le dire. Mais comme l'épidémiologie, c'est la science des probabilités, c'est-à-dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il y a un excès, mais est-ce qu'on est très sûr que cet excès n'est pas en rapport avec autre chose ? Eh bien, les industriels ont, de ce fait-là, en s'appuyant sur des scientifiques, des mathématiciens, et puis quand même une série de scientifiques, que je dis, malhonnêtes, ont imposé que ce soit la statistique qui dise il y a un problème. Et pourquoi est-ce que je parle de mort statistique ? Alors j'ai emprunté cette expression à un collègue qui était physicien, qui s'appelle Roger Belbéoc, et qui a beaucoup travaillé sur la radioactivité, et qui disait, de toute façon, les épidémiologistes s'appuient sur les données de mortalité. C'est les plus mauvaises données pour quand même arriver à identifier quelque chose, parce que avec le même cancer, il y en a qui vont vivre pendant des années. Il y en a d'autres qui vont mourir tout de suite. Donc la mortalité, ça mesure quoi ? On ne sait pas très bien. Et là encore, les épidémiologistes ont imposé de regarder la mortalité, pas l'incidence des nouveaux cas, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an rapportés à la population, qui permet de voir l'évolution de l'épidémie.
Je représente ici un collectif de 20 à 30 personnes qui travaillent depuis bientôt 2 ans sur ces questions. Et disons que notre information est effectivement assez complète, beaucoup plus complète d'ailleurs finalement que celle de la chambre patronale, à moins qu'il y ait des omissions volontaires dans celle de la chambre patronale, dans les informations qu'elle diffuse. Nous avons un retard en France absolument considérable et inadmissible. Depuis 1930, il y a une législation en Angleterre. Nous sommes en 1976, il n'y a toujours rien. C'est absolument incompréhensible, d'autant plus incompréhensible si on ne savait pas aussi les pressions considérables qui sont faites par l'industrie de l'amiante, justement pour empêcher la sortie de ceci. Et j'en donne pour
mais
exemple.
Mais monsieur Pézra, regardez, vous avez donné l'information qu'on fait. Je vous signale qu'on n'a pas attendu toute cette campagne de presse pour améliorer les conditions de travail dans nos usines. Et on a des preuves absolument formelles dans ce domaine.
Dans les années 60, Irving Selikoff aux États-Unis, le lien amiante-cancer est dans l'espace public, indéniablement. À partir de là, qu'est-ce qu'aurait dû faire la santé publique en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc., partout où on avait l'amiante ? C'était constituer des registres, faire un suivi des travailleurs d'abord, faire un suivi des travailleurs, enregistrer au fur et à mesure ceux qui tombaient malades et faire un travail clinique approfondie, et puis de recensement des postes de travail pour voir justement la relation entre les maladies qui survenaient et les postes de travail. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que les épidémiologistes ont fait ? Et là, c'est aussi sous l'influence des industriels. Les industriels ont dit Irving Selikoff, il a trouvé ça sur les travailleurs de l'isolation. Mais dans les mines du Canada, c'est pas comme ça. Et il y a un certain McDonald, un professeur McDonald, qui a fait des études parfaitement malhonnêtes qui tentait à prouver que l'amiante ne donnait pas le cancer aux mineurs canadiens. On traîne ça pendant un siècle. Hein. Ça fait un siècle que ça dure, cette affaire. Hein. Et à partir de là, qu'ont fait les épidémiologistes ? Au lieu de s'intéresser et de faire un travail, ce que Irving Selikoff disait, c'est il faut considérer qu'être exposé à l'amiante dans le travail de l'isolation, c'est pas la même chose qu'être exposé à l'amiante dans le travail textile, etc. De toute façon, il faudra faire la prévention, mais arrêtons de tout homologuer. Et alors, ça a été complètement transformé de façon perverse, en disant il faut prouver que l'amiante donne le cancer dans toutes les situations. Alors en France, il n'y avait aucune donnée jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 70 d'abord, et ensuite de nouveau jusqu'aux années 90. Il y a très très peu de données en France sur les maladies liées à l'amiante. Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de registre, rien. Les Italiens, les Anglais ont fait des choses, nous non. Mais qu'ont dit les industriels ? Ah oui, mais on n'est pas très sûr qu'est-ce qu'ont fait les épidémiologistes au lieu de dire, mais attendez, moi je suis en santé publique et mon problème, ça n'est pas de reprouver que l'amiante donne le cancer, c'est surtout d'empêcher que il fasse plus de dégâts que ceux qu'on constate aujourd'hui. Ils ont reconduit indéfiniment, et ils le font encore, la recherche d'une relation statistique entre amiante et cancer.
Est-ce qu'on aurait pu interdire l'amiante dès 77?
Jacques Barrault répond à José Bourgarel.
Je crois qu'on n'avait pas à ce moment-là les données scientifiques qui permettaient de procéder à cette interdiction, et d'autre part, nous n'avions pas des substituts de l'amiante qui, notamment, dans ses capacités d'arrêter toute propagation du feu, parce que c'est ça, il faut voir aussi que les équipements des sapeurs-pompiers étaient essentiellement à base d'amiante. Il faut savoir aussi que vous aviez, en effet, une méthode de prévention contre le feu qui était particulièrement appréciée. Donc, toutes ces raisons faisaient qu'on voyait bien l'utilité, qui permettait d'éviter d'autres risques, mais on ne voyait pas aussi le risque spécifique de ces fibres qui pouvaient, en effet, lorsqu'il y avait une petite défaut du dispositif amianté, de pouvoir libérer des fibres.
Il y a l'articulation entre les industriels et les scientifiques qui conduit à cette perversité quand même de la santé publique. Mais ce qu'il y a également, c'est le fait que cette incertitude, elle sert bien l'immobilisme des pouvoirs publics. Il faut voir comment ça s'est passé en 77. En 77, donc, il y a le mouvement de Jussieu, le mouvement d'Abizol, et puis il y a des réunions au ministère du Travail en disant qu'il va falloir faire quelque chose. Alors là, les industriels disent « Bon, bah d'accord, on va faire une valeur limite, puisque de toute façon, dans tous les pays, il commence à y en avoir. Mais on ne descendra pas en dessous de 2 fibres litres. Et là, il y a un certain nombre de médecins pour dire « Mais vous savez très bien qu'avec 2 fibres litres, on ne protégera pas contre le risque de cancer. » Et là, les pouvoirs publics se retrouvent face au chantage des industriels. Alors, c'est le travail des lobbies qui dit « Nous, on ne descendra pas en dessous. » Le ministère du Travail lui-même est en train de détricoter sur le plan de la santé au travail ce qui avait été construit pour protéger les travailleurs. Donc, évidemment, sur des risques aussi graves que les risques de cancer, on est face à une situation où la rationalité économique triomphe. Mais c'est impressionnant de voir, de ce point de vue-là, moi, de mon point de vue, la régression sur le plan de la possibilité de faire jouer à l'État le rôle qu'il devrait jouer en termes de protection et de prévention des risques du travail. Et sur ces risques à effet différé en particulier. C'est la progression de la notion de risque acceptable qui est absolument inadmissible si on se réfère au droit pénal. Il y a un interdit de tuer, de mettre la vie des autres en danger, de blesser, etc. Et en fait, la notion de risque acceptable a été... C'est un compromis socio-économique qui a été imposé, là aussi, par les industriels, malheureusement avec la complicité aussi des scientifiques au travers de cette mécanique du doute. Quand on parle de valeurs limites d'exposition, les valeurs limites d'exposition à un cancérogène, c'est admettre qu'il y aura des morts. Quand dans le nucléaire on dit 20 millisieverts, c'est-à-dire une irradiation qui peut aller jusqu'à 20 millisieverts par an, quand les travailleurs parlent de leur crédit d'irradiation, c'est une expression absolument redoutable, ça veut dire que, assurément, il y aura des morts. La seule chose qu'on n'est pas capable de dire, c'est sur qui ça va tomber. À partir du moment où scientifiquement, on sait qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel le risque est nul, la cohérence d'un point de vue de protection des hommes et des femmes, c'est qu'il n'y ait aucune exposition. Et alors, il y a une contradiction quand même actuellement entre une certaine progression de cette idée-là, puisque les textes du Code du travail et plus largement des directives européennes sur les cancérogènes, c'est de dire, le premier article, c'est une substance cancérogène doit être substituée par une substance qui ne l'est pas. Moi, d'un point de vue de santé publique, de chercheur en santé publique, je pense que c'est devant les tribunaux que la question du crime industriel doit se régler. Parce que, autant, dans la première moitié du XXe siècle, quelques industriels étaient au courant parfaitement pour chacun des domaines. Le plomb, la radioactivité, l'amiante, la chimie. On avait là la naissance d'un cynisme industriel absolument sans précédent dans l'histoire, je pense, quand même. Mais à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et encore plus avec le mouvement pour l'interdiction de l'amiante, etc., on est là dans une situation où il y a une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc le cynisme a pris quand même des dimensions telles que il faut qu'un juge, à un moment donné, arrête ça. On a dans l'industrie chimique des procédures qui commencent à se mettre en place pour juger d'un point de vue pénal ce qui est au cœur de cette histoire et que malheureusement des scientifiques ont soutenu et continuent de soutenir, c'est-à-dire le fait que des industriels se sont acquis le droit de tuer parce que une maladie met longtemps à apparaître.
Sachez qu'auront cœur mu ménage, les mineurs viennent d'avoir leur congé, prennent leurs valises et partent voyager à la campagne, ouvrir leur parenté. Mais comme mes autres, je prends mes bagages et je m'en vais, mais je quitte pas ma patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends, sans débourser un sou de train, et je passe mes vacances tout en haut des chéries. J'ai tout dit de la chance, et le terrain y est jamais pris. Je monte une toilette tant que je vis tout seul, et je m'arrache. Et si fais-je rire, je campe, et suis heureux de faire du campache. Je me fais la popote, et je vis pas mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, je me crois à Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout à haut des chéris. Comme point de vue, faut dire ce que je dégote, les beaux, les prairies des environs, les villages, les villes, nos corons. Et je me rase lol, ça ne me coûte pas rond. Sur ma feu de bouche, je fais tout me gargote. Billard, doge, pomme, tire, frite, morceau de lard. Et j'ai monté 35 litres de pinard pour m'y chucher un père pénard. Et je passe mes vacances tout en haut des chéries. J'ai tout dit de la chance et de dire ce que je vaux chez ta mie. Quand arrive le soir et je vaux venir les amoureux, ils attaquent qu'ils fassent noir, mais mi je ne les quitte pas des yeux. Ils vont s'alassant, je dis j'en débalivernes, tout à s'abrassant d'un chevelé, d'un chluzerne. Ils se font des papoules à sa plan, mon chéri. Et mi je vaux tout chat, tout à haut des chéris. Mes aventures, je n'ai point eu de chance, d'un seul coup là qui se met à pleuvoir. Je rate à l'abri sous ma perchoir, et me tente à le pichot jusqu'au pire canard aux oies. Alors j'ai poussé la romance, j'ai sorti pour m'éviter le cafard, et j'ai flûté saxilité de pinard, à berloquant comme un pochard. J'ai dégringolé tout à bas des chéris. arrivé au pied, je me suis relevé, tout meurtri. C'est plus con que j'ai fait, j'avoue tellement en cuite. À la place d'une barrette, j'avoue sur une chette et j'condron à frite. À force de bourler et me pencher sur des cailloux. Il y a un certain place, il m'a manqué un morceau. J'y ai mis un bout de loupe et suis pas prêt d'être guéri. Et suis remonté tout à haut des chéris.
Alors pendant 30 ans, le mineur campeur, il ne quitte pas sa chère Thierry. Même passionné, il y voit comme au passé. Seulement aujourd'hui, il est malade. Il faut celle-là user. Il est dans sa lit. Et les larmes aux yeux, en revisant à travers un carreau, il dit tout bas.
Comme ça va vite, comme le temps passe, au Thierry j'ai campé belles années, acheteur il faut l'abandonner, je ne suis plus qu'un vieux mineur passionné, et je n'ai plus que des hoches d'âme carcasse, suis vieilli, mes gants sont ramollis, et des mferniettes en étant dans ma lit, à travisant j'ai dit c'est fini, je ne montrerai plus jamais tout à haut de Thierry. Fini désormais, le médecin je l'ai bien compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont que de cosse. Plein de poussière et de carbone, un appel chat, la silicosse. C'est bateau ma tour, et de partir comme tant de vieux. Et de faire un long séjour, là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me laissera. Quand je serai au paradis, quand on ira en vacances, tout à haut de ma terrine.